Écrivain avant tout, Philippe Soler dérange aussi à sa manière. Éclaté et souvent mal compris, son parcours d'écriture laisse souvent pantois les critiques qui cherchent à circonscrire une œuvre ponctuée de pieds de nez. Souvent victime des remous qu'il provoque, Soler passe pour Cabotin. Il faut bien dire que l'auteur aime tremper sa plume à même un quotidien truculent. Les frasques de l'auteur font beaucoup parler.
Donc, j'écris des romans. Et en général, sur ces romans, qui me coûtent 2 ans, 3 ans de travail, qui sont bourrés de documentation et composés, j'espère, de façon assez stricte, dialogue, paragraphe, etc., j'obtiens en général très peu, et désormais presque jamais, de critiques littéraires. J'obtiens quoi ? Soit des discours moraux, des discours de récusation, soit le portrait toujours renouvelé de mon activité sociologique. Si vous voulez, la presse, lorsque je publie un roman, parle toujours très peu de ce qu'il y a dans ce roman, de ce qu'il contient, de la signification qu'il a, mais refait indéfiniment mon portrait. Qui est donc ce Soler ? Alors, donc c'est comme un fichier sociologique qui est chaque fois obligé de se refaire et de me raconter. Mais on ne parle pas de livre. C'est bizarre.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que par la force des choses, il n'y a pas certains éléments dans ces livres qui sont très provocants, accrocheurs et qui retiennent l'attention, qui volent peut-être la vedette ? Je pense à la place prépondérante qu'occupe une certaine sexualité débridée dans certains livres, ça semble retenir éternellement l'attention. Dans Femme, dans Le portrait du joueur, comme si le roman, dans sa signification complète, était dépassé par l'anecdote, par les lettres de Sophie, par exemple, qu'elles ont vraiment passionné. Elles étaient croustillantes.
Elles sont pires que ça, si j'ose dire, parce qu'elles sont vraies. Ce sont des lettres réelles introduites dans un roman. C'est-à-dire que j'ai toujours maintenu que c'était des lettres réelles. Donc elles sont, en quelque sorte, collées dans le roman. Donc ça suppose que le romancier a réellement reçu ces lettres. Donc il a vécu dans sa vie l'expérience qu'il raconte. Ce qui semble assez étonnant. Maintenant, pour ce qui est de la sexualité, une chose qui me frappe toujours, c'est que je crois que aussi bien l'enfant, le portrait du joueur, le cœur absolu, ce sont des récits où la sexualité tient en effet une grande place. Mais ce que personne ne semble remarquer, c'est que c'est une place toujours distanciée, le plus souvent ironisée, et au fond une position d'incrédulité sexuelle. Or, la façon dont ça fait événement, c'est comme si j'étais dans un état de crédulité sexuelle. Or, ce que j'introduis dans les livres, un peu dans l'esprit, un peu beaucoup même dans l'esprit du 18e siècle, qui me semble être le siècle le plus libre par rapport à ça, nous en sommes loin, le 19e c'est déjà le tunnel victorien puritain, le 20e c'est des massacres parce qu'on ne sait plus quoi faire de la sexualité refoulée, et même quand on la prêche aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, c'est pour, au fond,
on ne la prêche plus tellement, de toute façon, on en a peur, de la sexualité.
Même quand on la prêche, vous sentez les effets du puritanisme généralisé. Enfin, si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, par exemple, si vous avez une sexualité différente, marginale, vous n'allez pas être sanctionné. C'est quand même, il y a un grand effort pour aller dans le sens de, si je suis homosexuel par exemple, ça n'a pas provoqué un scandale quelconque, hein, au contraire même, je dirais. Mais il y a donc à la fois un puritanisme et à la fois la crédulité que la sexualité est importante. Mais une crédulité dans la sexualité. Moi, ce que je introduis dans mes romans, c'est une incrédulité. Et c'est toujours très étrange de voir que la société est si crédule à ce sujet. Alors crédule pour des tas de raisons. Mais les gens y croient, voilà. Moi, je n'y crois pas.
Mais cette sexualité aussi, c'est un moyen que vous avez, c'est une façon de contester un certain ordre des choses, une certaine façon de faire. C'est cet élément de perversité que vous appliquez pas qu'à la sexualité. D'ailleurs, ce serait trop facile de faire l'équation entre votre perversité et la seule sexualité.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est de décrire l'envers de l'histoire de mon temps. En reprenant carrément le titre de Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine. J'ai une grande passion pour les écrivains, que ce soit Balzac, Proust, Céline. À Proust, on demandait tout le temps ce qu'il allait faire dans les salons mondains. Il allait observer. On peut aller à la télévision exactement de la même façon, observer comment ça se fabrique, la télévision. Proust allait dans les salons, moi je vais à la télévision, par
Et
exemple.
Et vous venez observer?
Oui, je viens observer comment ça se passe. Observer le système. On observe le système des représentations d'une société, ses efforts pour faire une consistance, pour créer des consensus, des... Enfin, on regarde comment ça se fabrique. Et puis après on raconte l'envers, les coulisses. Et c'est pareil pour la sexualité. Au fond, un roman comme Femme a fait événement parce qu'il est tombé exactement à un moment, je pense, à pic, hein, début 83, mais ça faisait déjà 10 ans que je l'écrivais à partir des notes que j'avais prises. Et il est tombé exactement au moment où on pouvait sortir cette nouvelle question des rapports entre hommes et femmes et du malentendu ou de la guerre des sexes que ça représente. Et c'est un livre qui a fait événement parce que, précisément, il était probablement le premier, on va avoir du mal à s'en débarrasser, à faire carrément le point.
Donc il fera date.
Je pense.
Vous avez failli dire j'ai peur.
Oui, j'en ai peur pour, pas pour pas, mais pour, j'en ai peur pour les systèmes d'ego. J'en ai peur pour l'incessante activité des dévots. C'est un livre anti-dévot.
Il a marqué, mais il a aussi fait scandale, parce que si la sexualité est une chose, il y a aussi, vous parliez des 10 ans de notes que vous y avez investies. Vous parlez aussi de gens qu'on connaît.
Comme un ethnologue. Mais oui, ben, il y a en effet...
Ah, parce que là, vous introduisez une nouvelle notion, celle de l'écrivain ethnologue.
Oui. Un écrivain sur le terrain. Et c'est le terrain public et c'est le terrain privé. Un écrivain, c'est quelqu'un de terrible, vous savez, c'est un vampire, c'est quelqu'un qui philosophe jusque dans les boudoirs, qui donc a toujours une pensée derrière la tête, qui a toujours ce petit stylo en réserve dans sa tête.
Il est toujours armé.
Toujours. Le revolver est toujours sous l'oreiller. Toujours. Donc c'est quelqu'un qui pense à son récit 24 heures sur 24. C'est une discipline, comme disait Baudelaire, même dans les bras de sa maîtresse, il faut penser.
Mais des fois, on est à se demander jusqu'à quel point Solers n'est pas en train de concocter ses romans en vivant sa vie, jusqu'à quel point il ne façonne pas sa vie pour ensuite façonner ses romans.
Et c'est ça qui est passionnant. C'est que le roman, c'est la vie, et la vie, c'est le roman. C'est-à-dire que se mettre dans une situation de roman dans la vie, et c'est ça que j'écris d'ailleurs, les narrateurs de femmes, de portraits de joueurs, du cœur absolu.
C'est vous, en général.
C'est moi, mais avec des identités assez différentes, parce qu'on croit que j'écris toujours le même livre, mais pas du tout. Ce sont des situations expérimentales différentes. Je construis des situations où je me délègue, si vous voulez, comme un personnage du roman. Et La Fête à Venise, c'est très différent des Folies Françaises. Les Folies Françaises, c'est une histoire entre père et fille, ça n'a rien à voir entre les femmes, etc. Donc les sujets varient. Ce sont des identités multiples. Mais c'est, vous savez, au fond, c'est la technique de l'agent secret. Mon prochain livre s'appelle Le secret pour ce présent. Qu'est-ce que c'est qu'un agent secret? C'est quelqu'un qui peut avoir 4 ou 5 identités différentes. Il n'en reste pas moins le même homme. Qui peut donc pratiquer la différence d'identité, qui peut pratiquer, et il le doit, s'il veut survivre, le cloisonnement, l'étanchéité entre les relations.
Entre les identités.
Supposez un agent secret qui travaille pour son propre compte, c'est ça l'écrivain. Pas un agent secret de tel ou tel État, de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel lobby.
Puissance étrangère.
De tel ou tel lobby. Mais pour lui-même, pour sa propre relation. Il doit se constituer. Comme un agent secret. Et alors la vie, à ce moment-là, devient aussi passionnante qu'une affaire d'espionnage, en quelque sorte. Un écrivain est un espion. Il est 9h du soir, au studio. J'attends Gabriel, aperçu de loin dans un bar de Zurich avec son amant, et qui m'a téléphoné peu après. Elle a 38 ans, 4 enfants, son mari l'a quitté pour aller encore faire 2 ou 3 enfants ailleurs, son amant, pétrolifère texan et riche, influent, il la débauche carrément, Mais ça ne lui plaît pas. Elle veut son truc à elle, bien à elle. Le temps de monter le scénario à son profit, pourquoi pas moi? Elle arrive, champagne, action immédiate, elle veut que je lui raconte mes aventures tout en la travaillant savamment. Elle a appris par cœur certains passages de Portrait du joueur, des lettres de Sophie, des séquences particulièrement dégoûtantes. Elle veut faire comme dans le livre. C'est son manuel de cuisine. Elle pense que ce sont des recettes universelles. Conviens chez moi comme au restaurant. Fais-moi pareil. Dis-moi comment. Ou alors, raconte. Raconte ce que tu fais. Me voilà cobaye, arroseur arrosé. Ça m'apprendra.